Bienvenue sur le podcast Les Cousins Théologiens.
Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bienvenue à Benjamin, je l'accueille non seulement sur ce podcast, mais chez moi. Il m'a rendu visite à Lille.
C'est ça. Salut Maxime, content d'être là, content d'être dans ce bel appartement. Vous ne pouvez pas le voir, mais c'est magnifiquement décoré. voilà, je tenais à le dire à nos auditeurs.
Je crois même que vous verrez des petits bouts de l'appartement si vous allez sur sa chaîne YouTube, dans certaines vidéos.
Dans ma dernière vidéo, vous pourrez découvrir ça par vous-même.
Bonjour et bonne année, parce que je crois que c'est la première fois qu'on se voit cette année, c'est la première fois aussi qu'on vous parle en 2021. 2021, enfin, c'était long cette année 2020, c'était compliqué. Puis on va en parler un peu aujourd'hui de ce qu'on a pu apprendre de cette année, des leçons, pas sanitaires, mais spirituelles, des leçons pas uniquement politiques et tout ce qui a pu agiter nos contemporains durant cette année, mais ce qui a pu aussi faire méditer les chrétiens. Alors Benjamin, est-ce que tu as une vérité, quelque chose qui te ressort là rapidement sur 2020, quelque chose qui t'a appris, que tu aimerais garder en tête pour 2021?
Ouais, une des choses qui m'a frappé, des réflexions qui m'a frappé là, dans ces derniers mois, alors qu'on a vécu des imprévus semaine après semaine, c'était vraiment l'année des imprévus, de rien pouvoir planifier. Je sais que je suis quelqu'un qui aime beaucoup planifier les choses, prévoir ce que je vais faire, mon emploi du temps, mes projets, mes sorties, etc. C'était juste impossible cette année. Et c'était vraiment bienfaisant pour nous amener à nous rattacher à certaines vérités concernant Dieu qu'on a besoin de garder au centre de notre vie chrétienne. Et j'ai ce passage de Jacques qui m'est revenu à plusieurs reprises et il a été largement cité pendant le confinement à juste titre, où Jacques il dit « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devrez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Et ça m'a juste frappé que cette phrase, si Dieu le veut, si le Seigneur le veut, Dieu voulant, c'est quelque chose qu'on disait depuis tout le temps, que les chrétiens disent. Mais je crois que cette année, on a vraiment appris à le dire en réalisant ce que ça signifie. Que Dieu est réellement souverain. On a été contraint à confesser, et c'est pas une mauvaise contrainte, c'est une bonne chose, que Dieu était souverain même sur cette pandémie. C'était pas en dehors de son plan, que c'était quelque chose qu'il avait prévu, qui fait partie de son plan. Et donc dans tout ce qu'on voulait projeter et voulait faire, au milieu de la crise, alors qu'on savait pas à quoi allaient ressembler les prochaines règles, les prochaines contraintes sanitaires, on devait dire, ok, on va faire ça, mais si Dieu le veut. Et c'était une déclaration puissante à faire, c'est de dire, mais peut-être que Dieu ne le voudra pas. C'est Dieu qui permet que ça se passe, c'est Dieu qui est l'auteur de tout ça, qui a le contrôle sur toutes ces choses. Et je pense que ça, c'est une bonne chose que cette année, en tant que chrétien, on ait été obligés à nous confronter, là encore de la bonne manière, de manière positive, mais à la souveraineté de Dieu. Est-ce qu'on croit réellement à un Dieu qui est souverain? Parce que si ce n'est pas le cas, on a vraiment un souci avec l'année qui s'est passée et on ne peut pas l'aborder avec beaucoup de confiance. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu partages aussi, toi, dans ce que tu as vécu, la manière dont tu as vécu les choses, mais c'était assez fort pour moi, en tout cas.
Ouais, ce qui m'a frappé aussi, c'est que finalement, on est, en tant que chrétien, peut-être assez habitué à réfléchir en termes de « si Dieu le veut ». Et là, j'ai l'impression que le monde entier a dû réfléchir pareil. Peut-être pas en faisant mention de Dieu explicitement, mais en termes de « si le hasard le veut bien, si les circonstances le permettent ». Ça nous a fait au moins réaliser, si ça ne nous a pas fait réaliser la souveraineté de Dieu, ça nous a fait au moins réaliser la faiblesse de nos plans, de nos stratégies, de nos prévisions, de nos agendas. Et comment ça peut être bousculé du jour au lendemain, et pas pendant une semaine, mais pour presque une année entière.
Ouais, exactement. Et ça, alors on passe un peu du coq à l'âne là dans ce podcast. Tu me dis si tu veux aller ailleurs. L'idée c'est plutôt d'avoir quelques réflexions là sur 2020. On copie un peu ce que le Bon Combat a fait parce qu'on n'a rien inventé nous, vous savez, dans la vie. Mais ils ont fait aussi un épisode comme ça.
Je les ai pas écoutés, mais
2020, j'ai écouté une partie. Voilà, big up à Guillaume et Pascal si vous nous écoutez. On essaie de pas copier ce que vous avez dit quand même. Mais non, mais d'avoir un peu un retour sur 2020. Et une des choses aussi qui m'a frappé de ces derniers mois de pandémie, de confinement, etc., c'est de montrer que peut-être que le confort, enfin de montrer à quel point le confort est devenu une idolâtrie en Occident, où justement, est-ce qu'on croit mériter la liberté de pouvoir voyager, de pouvoir faire toutes sortes de choses, de pouvoir se voir, etc., alors que là, ça nous est coupé du jour au lendemain, on voit que c'est quelque chose, on doit vivre sans, on doit apprendre à vivre sans ça, et on doit apprendre à se rattacher à ce qui est essentiel, à ce qui fait la vie, à ce qui fait notre bonheur, notre joie, notre satisfaction. C'est pas toutes les choses qu'il y a autour, tout notre confort, mais c'est Dieu lui-même qui n'a pas changé, qui était toujours le même durant cette année 2020, son caractère qui n'a pas changé. Moi j'ai été très encouragé cette année en, en me rapprochant du caractère de Dieu, en m'étant amené à considérer davantage le caractère de Dieu, oui, sa souveraineté, comme je l'ai dit, mais aussi sa bonté, sa fidélité, notamment dans une série de prédications dans mon église sur les psaumes, qui étaient vraiment bienfaisants, ou une série d'études sur la Genèse qu'on a eues aussi. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien et ça nous amène à voilà, détacher nos yeux du confort, réaliser que c'est pas ça notre idole, c'est pas ça qui doit avoir la première place dans nos vies, pour recentrer les yeux sur Dieu, sur sa personne et son caractère, et ça c'est une bonne chose.
Ouais. Je pense qu'on a parlé de la faiblesse de nos plans, mais je pense que cette année révèle aussi d'autres faiblesses. Déjà la faiblesse de la vie, parce que bah, on avait des comptes de morts, de nouveaux cas de maladies assez régulièrement, et donc la mort d'habitude en Occident c'est quelque chose qu'on occulte un peu, et là bah, c'est sur le devant de la scène, hein, on en parle, on se fonde sur ça pour prendre des décisions politiques. Donc la faiblesse de la vie humaine, la faiblesse de nos plans, et aussi d'une certaine manière la faiblesse des choses qu'on a mis en place, des commerces, les gens qui ont dû fermer, les gens qui avaient des revenus qui ont dû s'arrêter du jour au lendemain, qui avaient des petits projets pour cette année. Je sais qu'à Lille, j'ai vu des boutiques qui comptaient se lancer en mars. Quel mauvais plan s'ils avaient su l'avenir. Et c'est pas seulement nos petits projets de la vie quotidienne, mais aussi voilà, notre solidité économique qui a été affaiblie. Donc je pense que c'est une bonne année pour apprendre l'humilité de façon globale, à la fois dans notre capacité à prévoir l'avenir, mais dans notre capacité à vivre, à monter des projets, bah comme le dit Jacques, hein, à faire des entreprises, à vendre telle chose, à aller voyager.
Et un bon moyen pour nous de nous recentrer sur l'objectif de nos vies qui est de glorifier Dieu, où Dieu a été glorifié en 2020. Il a accompli son plan pour sa gloire. Ça s'est passé malgré la pandémie, malgré tout ce qui a pu être fait. Et on a pu glorifier Dieu en 2020. On peut, en fait, c'est le but de nos vies, hein, que vous mangez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu, de tout faire pour la gloire de Dieu. Et on veut agir dans ce sens-là, peu importe ce qui se passe dans nos vies. Et du coup, ça nous amène à réaliser, à recentrer bah, le but de nos vies, l'objectif de nos vies. C'est ça qu'on veut viser. On veut viser la gloire de Dieu, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'on traverse. Et c'est ça ce qui se passera. Dieu accomplira son plan et c'est quelque chose de merveilleux.
Ouais, je pense que c'est quelque chose aussi de profondément satisfaisant pour les chrétiens, parce que je réfléchissais à la situation de ceux qui ont appris du jour au lendemain qu'en fait, aux yeux du gouvernement, leur commerce n'était pas essentiel. Bah, mine de rien, oui, ton travail ne permet pas aux gens de vivre et de survivre, donc bah, c'est pas essentiel pour nous. Et savoir pour les chrétiens que aussi les actions qu'ils font ne sont pas uniquement en rapport à leur utilité pour la société, même si c'est très important, mais aussi face à ce que les gens ne voient pas, face à l'approbation de Dieu sur ce qu'on fait, son regard sur nos vies, coram Deo comme on dit, c'est-à-dire le regard qu'il porte sur tout ce qu'on fait, ça peut être une source de joie particulière, hein. Jésus en parle, il dit, il reprend ceux qui cherchent la gloire qui vient des hommes et qui cherchent celle qui vient de Dieu. Enfin, ceux qui cherchent la gloire qui vient des hommes et qui ne cherchent pas celle qui vient de Dieu. Et c'est encore un des rappels de 2020. Peut-être que votre vie, votre travail même, finalement la société va vous faire comprendre, bah, c'est pas essentiel quand on est en situation de crise, mais aux yeux de Dieu, votre œuvre, c'est ça qui compte, la disposition de vos cœurs. Une autre chose auquel on avait pensé en discutant un peu en préparant ce podcast, c'est combien cette année a fait un pied de nez à l'évangile de prospérité, parce qu'on a vu bah, des chrétiens touchés comme les autres, en fait, être touchés par la maladie. Et quand on croit à la souveraineté de Dieu, c'est pas quelque chose qui nous ébranle, parce qu'au final, on croit que la maladie nous arrive, mais que ça reste sous le contrôle de Dieu. Mais je pense que c'est aussi une vérité, en tout cas quelque chose à remarquer de cette année. Les chrétiens ont été touchés par la maladie. Ils n'ont pas été épargnés, et c'est pas un manque de foi de leur part.
C'est ça, ouais. Et ça, c'était un. Enfin, non seulement ça montre combien l'évangile de prospérité, non seulement est bibliquement faux, et ça, on a eu l'occasion de l'aborder dans un autre podcast, vous pouvez chercher ça. Les cousins théologiens sur l'évangile de la prospérité, je ne sais plus comment on l'avait appelé, mais voilà, vous pouvez trouver ça. Mais non seulement c'est bibliquement faux, mais aussi c'est pratiquement, enfin dans la pratique, c'est insoutenable, ça ne tient pas la route. C'est faux de dire que la maladie ne fait pas partie de la vie du chrétien, que les chrétiens ne peuvent pas tomber malades, parce qu'on a vu cette année que c'était ouvertement le cas, que, enfin on l'avait déjà vu avant, mais cette année a été encore plus révélateur de ça, que des chrétiens fidèles qui font confiance à Dieu sont touchés par ce virus et j'en ai connu dans le cercle de mon église et d'autres endroits, meurent de ce virus. Et c'est quelque chose de terrible, de triste, mais c'est quelque chose de réel, de vrai, et qui n'est pas une preuve de manque de fidélité, qui n'est pas une preuve de manque de confiance à Dieu. L'Écriture n'en parle jamais en ces termes-là. Et donc ça a été aussi une occasion pour nous, en tant que chrétiens, de réfléchir bibliquement aux questions de maladie, de guérison, de toutes ces choses-là, et de se dire, mais qu'est-ce qu'on pense réellement par rapport à ça? Et même, je pense, parce que là on cible l'évangile de prospérité, même pour nous en tant que chrétiens évangéliques, je dirais dans le sens strict du terme, de comment est-ce qu'on réagit face à la maladie, comment est-ce qu'on prie dans la maladie. Est-ce que c'est OK? Et je crois que c'est OK, bibliquement, de prier pour la guérison de la personne, de demander, mais Seigneur, mais permets que cette personne soit guérie, de soumettre nos prières à la volonté de Dieu, de soumettre nos prières au but que Dieu soit glorifié, mais aussi de prier non seulement pour des aspects physiques, mais aussi spirituels, que cette personne soit fidèle dans la maladie, qu'elle tienne bon, etc. Et donc ça, on a été obligé d'être confronté à cette question-là, comment est-ce qu'on réagit face à la maladie, alors que jusque-là, c'était quelque chose de où certaines personnes seulement étaient touchées et la majorité de l'Église était relativement épargnée, ben là tout le monde était concerné par ça. Pas qu'on était tous concernés par ce virus, mais on connaissait tous des gens qui étaient concernés par ce virus et on a dû réfléchir à la manière dont on abordait les choses.
Un autre sujet auquel on pensait, et je pense que ce n'est pas le plus petit hein, de cette année, c'est comment on a vécu l'Église. Alors je pense que sur toutes les lèvres, on a le mot Zoom, mais, ou Skype, ou je ne sais pas quel logiciel on a utilisé chez vous, mais il y a eu l'Église virtuelle. Les réunions ont été empêchées pendant un certain temps, puis soumises à telle et telle règle, et d'ailleurs encore aujourd'hui. Et je ne sais pas comment toi tu as vécu ça. En Belgique, c'est un peu différent. En France, c'est encore autre chose. Et en fonction des régions, de la taille de la salle aussi. Mais en tout cas, une des choses que j'ai réalisées, c'est combien c'est précieux la prédication de la parole, s'asseoir avec des frères et sœurs, entendre, chanter ensemble, entendre leur voix aussi, s'encourager mutuellement. Combien c'est difficile de se concentrer devant un écran et sur des choses sérieuses. L'église virtuelle, vraiment, ça a été un défi. Heureusement, Dieu a été fidèle, l'Église a pu être édifiée, même des gens sont venus à la foi durant cette période, ont été impactés par l'Évangile et ont rejoint des églises via Zoom. C'est assez incroyable, mais on a des histoires comme ça dont on a entendu même dans nos églises. Et Dieu n'est pas limité, bien sûr, par ces choses, mais nous, on est fortement impactés, on a été éprouvés par cela. Je ne sais pas comment vous avez vécu ça, quelle réflexion tu as sur ce sujet, mais...
Ben c'était très difficile, hein, très éprouvant pour l'Église cette année, parce que on a été, enfin la racine même de ce qui fait l'Église a été coupée, c'est-à-dire le rassemblement, la communion. L'Église, bibliquement, c'est pas un bâtiment, mais c'est un rassemblement de croyants, un groupe de croyants qui se rassemblent, qui s'assemblent. C'est ce que veut dire littéralement le mot Église quand il est utilisé dans la Bible, on s'assemble. Et on était empêchés de faire ça pendant une bonne partie de l'année. Et il faut dire et honnêtement que s'assembler sur Zoom, ça n'a rien à voir. C'est très faible. Et quand on parle de l'église virtuelle, on veut mettre des gros guillemets à église virtuelle parce que c'est pas ce qu'est l'église. L'église n'est pas virtuelle. L'église est un rassemblement physique de personnes. Et on a été empêchés de faire ça. Et donc c'était forcément très 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 difficile. Alors bien sûr, on reconnaît que c'était pour des bonnes raisons dans le sens où c'était nécessaire en raison de la crise sanitaire, etc. Et on n'est pas en train de remettre ça en cause. Mais du coup, forcément, c'était un coup dur d'être privé de cette communion fraternelle et qu'on voit dans tellement d'aspects. En fait, c'est pas juste dans un aspect. Comme tu le disais, c'est le fait de pouvoir chanter ensemble. On pouvait plus faire ça. Combien ça a tellement plus de valeur de chanter tous ensemble que de chanter tout seul dans son salon sur YouTube. On entend qu'on chante faux alors qu'avant, j'entendais jamais que je chantais faux. Maintenant, je sais que je chante faux. On sait toujours que je chantais super bien. Ou d'écouter la prédication. C'est pas pareil d'écouter une prédication tout seul sur YouTube dans son salon que de l'écouter en étant dans l'église avec d'autres personnes, de pouvoir discuter ensuite de la prédication avec d'autres personnes, de les voir, d'échanger des nouvelles, dans notre contact les uns avec les autres, le fait qu'on se voyait régulièrement, ça faisait qu'on partageait des nouvelles. Alors que là, on voit que si on n'est pas super intentionnel, ben, y a plein de gens de qui on n'a pas de nouvelles et qu'on n'a pas eu de nouvelles pendant des mois. Parce que ben, bien sûr, on peut pas avoir de nouvelles de tout le monde, mais avant, facilement, après une réunion, on pouvait parler 5 minutes avec, je sais pas, 4-5 personnes. Et du coup, on avait une vue d'ensemble de leur vie, de là où nous en étions. C'était super encourageant. Mais là, on n'a pas eu ça. Et donc, c'était ouais, vachement difficile et vachement éprouvant. Et ça nous montre qu'on a hâte de retrouver une vie d'église normale. Et c'est une bonne chose. En fait, on devrait vraiment avoir hâte de se retrouver. Et dès qu'on pourra se retrouver, de vivre et de corriger peut-être certaines choses qu'on faisait pour profiter encore mieux du privilège qu'on a.
Tu parlais des prédications et dans notre église, on a un petit groupe de membres qui réfléchit à l'enseignement dans l'église et on a eu l'occasion de faire un sondage cette année sur l'enseignement dans l'église. Et une des questions, c'était quels sont les messages qui vous ont marqué cette année? Et on a remarqué que les messages qui étaient ressortis, c'était ceux qui avaient été donnés avant ou après le confinement. Et ça nous a fait réfléchir. On s'est dit, bah oui, en fait, même pour écouter un sermon, un message, une prédication, être en physique, ça change les choses. C'est pas forcément que les prédicateurs étaient les mêmes, les thèmes n'étaient pas moins pertinents, mais ne serait-ce que pour l'attention, l'écoute, ça change des choses. Est-ce que tu aurais, je te prends peut-être de court par rapport à ça, mais des arguments bibliques sur le fait que l'Église a besoin de se réunir physiquement et pas uniquement en ligne?
Oui, je pense qu'on voit déjà dans la nature de ce qu'est l'église locale, c'est un rassemblement de croyants. Le mot église, tel qu'il est utilisé dans la Bible, c'est un rassemblement. On a dans Hébreux 10, alors j'essaie de retrouver dans la Bible de Max ça rapidement. C'est bizarre d'utiliser une Bible où on n'est pas habitué.
Ah oui, ça
Ah
va pas
non?
être du même côté, je pense
C'est
que c'est par
ça.
là. Mais...
Ah, excellent, voilà. On se repère dans les Bibles avec les colonnes, etc. Mais donc dans Hébreux 10, 25, où il est dit: N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Alors je suis d'accord que ce verset ne parle pas. Enfin, si vous cherchez un commandement explicite dans l'Écriture, vous devez vous rassembler physiquement.
Et non pas sur Zoom.
Oui, et non pas sur Zoom, bien sûr, vous n'allez pas trouver ça. Mais quand on prend le temps de voir les commandements bibliques qui sont adressés par rapport à l'Église, la seule conclusion logique qu'on puisse avoir, c'est de lui dire: mais c'est nécessaire, c'est indispensable d'être rassemblés physiquement pour ça, pour pas abandonner l'assemblée, pour s'exhorter les uns les autres. Et même si on voit dans les lettres de Paul, des lettres qu'il écrit aux églises locales, ce qu'il demande aux chrétiens de faire, de s'aimer les uns les autres, de se supporter les uns les autres, de prendre soin les uns les autres, etc. Bah, ça ne peut pas se passer sur YouTube, ça ne peut pas se passer sur Zoom. C'est super facile. Moi, j'ai beaucoup de facilité à aimer les gens de mon église sur Zoom, parce que je les vois juste 1 heure et demie, voilà, le temps du culte. Je discute avec eux 5 minutes après. C'est super facile de les aimer. Mais c'est beaucoup plus difficile, et vice-versa, hein, mais c'est beaucoup plus difficile de s'aimer quand on vit ensemble, quand on partage la vie ensemble, quand on partage les problèmes, quand on a des soucis et qu'on va voir les autres. C'est là qu'on vit vraiment l'église. Et donc, c'est quelqu'un qui dirait: ah, voilà, moi, je veux vivre l'église locale, mais je la vis à distance. Je suis en train de dire: mais déjà, tu es en train de rater un privilège immense, mais aussi, tu ne vas pas être en train de vivre l'église locale comme la Bible nous appelle à la vivre.
Et je pense aussi qu'il y a un manque de foi dans ce que Dieu a prévu pour l'Église. Hein. J'avais déjà écrit sur la REB un article là-dessus, mais Dieu a prévu des moyens de grâce pour faire grandir son Église, que sont la prédication, le baptême et la Sainte Cène, mais aussi des moments de communion comme la prière. Et ben, oui, on ne peut pas prendre la scène à distance comme ça sans se partager le pain. Il y a quelque chose qui manque à tout ce qui a été ordonné par Dieu et on manque des moyens de grâce. Or, si on écoute bien ce que dit la Bible, ce sont les moyens que Dieu a choisis pour nous faire grandir. Et si on veut grandir, on a besoin de se rassembler pour cela. Donc on ne veut pas dire, si on dit que Dieu est souverain, si on dit que Dieu peut œuvrer malgré tout cela, on ne veut pas dire que ça importe pas en fait à la santé de l'Église. Vraiment, ça a été une période difficile pour les chrétiens et c'est pas sans raison, c'est justifié. Et comme le disait un des anciens de mon Église, c'est presque bon signe en fait qu'on souffre de cette situation parce qu'on doit être attaché au rassemblement des chrétiens, comme le dit
Ouais,
Hébreux.
exactement. Et juste pour revenir par rapport à ce que tu disais, tu mentionnais la scène. Je pense une des autres choses, ou les autres domaines où on a été obligé d'être confronté à certaines vérités pour voilà, lutter avec elles, ou pour dire qu'est-ce qu'on croit par rapport à ça. C'est juste un exemple, hein, mais la Sainte Cène, c'est pareil, parce qu'on était privé. Enfin, notre conviction, et je pense ma conviction, et je pense Maxime partagerait la même, c'est de dire que la scène ne pourrait pas se faire à distance, par Zoom, virtuellement. C'est quelque chose qui est communautaire, profondément communautaire, qui nécessite un rassemblement physique. Et si vous avez besoin d'être convaincu par ça, on peut vous envoyer des ressources. Mais du coup, bah, on était privé dans mon église. On n'a pas fait la, enfin, depuis le mois de mars, on n'avait pas fait la scène. Voilà, la Belgique est très compliquée par rapport aux règles. On a pu se rassembler dans un cinéma quelques dimanches en octobre. Là, on a pu faire la scène avec des précautions sanitaires très très strictes qui rendaient la chose très compliquée. Mais sinon, depuis là, on n'a pas pu célébrer la scène ensemble. Et franchement, on doit se dire: ok, mais bah, est-ce qu'on croit que c'est si important que ça? Est-ce que ça nous manque? Et du coup, mais quand on célèbre la scène dimanche après dimanche, qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait juste pour habitude, parce que c'est ce que les chrétiens font? Ou est-ce qu'on le fait parce qu'on croit que c'est un commandement biblique, et qu'il y a une vraie valeur là-dedans, et qu'il y a une vraie grâce qui est communiquée au travers de cela? Et ça m'a amené moi-même à penser à ça, à réfléchir à ça, et avoir des convictions plus profondes par rapport à ça, de me dire: mais j'ai tellement hâte de pouvoir célébrer la scène de manière régulière avec mon église pour profiter de cette grâce, ce moyen de grâce que Dieu a donné.
Ben on espère que c'est avec ces sentiments aussi que vous commencez l'année 2021, avec hâte de retrouver vos frères et sœurs, hâte de prendre la scène. Si l'année 2020, par ce qu'elle nous a pris, nous a donné soif de récupérer ces choses, c'est vraiment bon. Hein, en médecine, on parle d'une joie qui s'appelle le silence d'organe. J'en ai déjà parlé à Ben.
C'est excellent
C'est
ça.
simplement le moment où vous n'avez mal nulle part. Je sais pas si parfois vous avez déjà fait du sport au point de découvrir des nouveaux muscles auxquels vous avez mal. Et c'est un peu ce que nous a fait 2020. On a mal à des choses qu'on était tellement habitués d'avoir ou de pas avoir que maintenant qu'on les a ou qu'on ne les a plus, on a hâte de retrouver en fait la normalité. Et j'espère que vous avez soif de cette normalité bonne dont parle la Bible, les prescriptions comme se rassembler, chanter, entendre la prédication, prendre la scène.
Amen.
Sur ces bons mots, on vous souhaite un bon début d'année 2021. Est-ce que tu as une exhortation encore à laisser ou
Je pense que le médecin a tout dit, c'était excellent l'analogie
profiter de votre
profiter du silence d'organe. Enfin, je ne sais pas si on aura ça en 2021, mais dès que ça revient, profitez-en en tout cas.
Excellent. À bientôt les amis.
À bientôt.